Bonjour, commissaire Chaben Swalhi, bonjour.
Bonjour.
Alors la violence urbaine, un phénomène nouveau, en constante croissance, un véritable fléau qui empoisonne et menace la vie des Algériens. Cette violence, comment peut-on aujourd'hui l'expliquer? Les paramètres qui ont favorisé l'émergence de cette violence menée par des jeunes qui dictent la leur.
Merci pour l'invitation d'abord. Je ne peux pas dire que c'est une violence nouvelle parce qu'en réalité elle existe depuis le temps. Au fait, peut-être que parce que les médias s'attellent sur la question que l'on constate qu'il y a un effet médiatique supplémentaire. C'est à part que le volume de la criminalité connaisse de plus en plus une croissance par rapport à l'augmentation de la population. De plus en plus, la ville est encombrée. Il y a plus de citoyens. On est quand même dans des centres urbains assez denses. Et donc, automatiquement, les relations entre citoyens causent quand même des effets qui poussent à la commission d'incivilité et de délinquance.
Mais est-elle une délinquance organisée? Sommes-nous dans une logique de bataille entre gangs mafieux organisés qui se disputent le contrôle de quartier?
Pas du tout, ça n'a rien à voir avec les gangs. Vous savez qu'un gang, en réalité, c'est un groupement d'individus qui sont organisés, qui ont des insignes distinctifs, qui ont un leadership, ils ont un caïd et qui ont un territoire. Et qui ont des hommes de main, des hommes de confiance, qui ont des gangs amis et des gangs ennemis, et qui s'adonnent généralement aux criminalités organisées, notamment le trafic de drogue, trafic de véhicules, etc.
On est loin de ça?
On est très loin de ça, parce que vous savez que si on parle de ce qui se passe dans les cités, c'est des événements ponctuels, et dès qu'il y a un traitement de police et de justice, la situation s'estompe immédiatement. Vous l'avez constaté à Alger, il y a eu plusieurs situations à Beb El Oued, à Bni Messous, à Bir Touta. Et dès qu'il y a eu un traitement, le phénomène a disparu de lui-même.
Mais dans certains quartiers, ceux que vous avez cités un instant au niveau de l'Algérois, il y a aussi à Constantine, par exemple à Ali Menjili, dans certains quartiers, c'est des batailles rangées entre clans rivaux qui sortent tout de suite le sabre, c'est à armes blanches qu'ils se disputent. Que se passe-t-il au niveau de ces quartiers particulièrement?
Vous savez qu'il y a des cités qui sont un peu hétérogènes. Des citoyens viennent de tous bords et puis il y a des différences dans les coutumes, dans leur mode de vie. Et vous savez que ces rixes entre jeunes de quartier viennent souvent pour des raisons assez banales, assez futiles. Un mauvais regard, un jeune homme qui drague une jeune fille et d'un seul coup ça enclenche entre ces jeunes de quartier. Et les motifs sont très très banaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui fait qu'il y ait ce genre de...
Lisez de très près ces indicateurs ou ces paramètres dont on parle actuellement.
Non, moi j'avais envie de parler autrement. J'avais envie de vous parler un peu de la criminalité en général en Algérie et la criminalité qui est violente. Parce qu'il y a tout de même une criminalité qui n'est pas violente. Et la criminalité violente qui est courante partout dans le monde. Dans nos chiffres, qu'il y a à peu près un peu plus de la moitié de la criminalité qui se fait avec violence. Hormis les situations de quartier, les cités et ce qui se passe dans certaines cités de l'Algérie, il y a une criminalité violente effectivement à laquelle nous faisons face en tant que service de sécurité et que nous avons prévenu depuis des années.
Mais est-ce que vous avez des indicateurs chiffrés avec vous ce matin pour nous les communiquer?
Oui. Donc, les grands indicateurs de la criminalité sont le volume de la criminalité, c'est-à-dire le nombre d'infractions qu'on enregistre annuellement. Je ne vais pas aller dans les détails, nous enregistrons entre 170 000 et 180 000 infractions par an, qui est un chiffre ordinaire par rapport à notre population. Donc, c'est à peu près, ça indique qu'il y a 300 à 400 infractions pour 100 000 habitants. Et nous avons enregistré durant les deux dernières années une augmentation d'environ 2% de la criminalité, mais qui est expliquée par l'action proactive des services de police. Vous savez que nous avons constaté qu'il y a une criminalité latente qui n'est pas affiché, où les citoyens ne peuvent pas dénoncer, ou qui n'est pas dénoncé. Et donc, on a engagé des opérations de recherche au niveau des quartiers et des foyers de la criminalité, et ce qui a permis de détecter plus de 15% du volume global de la criminalité. Aux alentours pour l'année 2014, pour les 10 mois de l'année 2014, nous avons détecté plus de 15% du volume global de la criminalité, et qui est traité à 91%. Ce genre de criminalité, à l'exemple du port de d'armes prohibées, de la consommation de drogue dans des quartiers, dans des cités un peu enclavées, tout ce travail se fait par les services de police sans qu'il y ait une plainte ou une dénonciation. Donc c'est des actions proactives, ce qui explique un peu l'augmentation de 2% du volume de la criminalité.
Mais quand vous parlez d'infractions, de quel type d'infractions exactement, puisque vous parlez de la criminalité violente? Est-ce que c'est des assassinats? Est-ce que c'est des vols? Est-ce que c'est des groupes organisés qui s'adonnent peut-être au trafic de drogue? C'est quel type d'infraction?
Vous savez qu'il y a plusieurs types d'infractions. Il y a les atteintes aux personnes qui résument dans leur majorité, qui sont portées sur les CBV, les coups et blessures volontaires. Là-dessus, je peux signaler que sur les coups et blessures volontaires représentent 45% du volume global de la criminalité. Et sur les 45% des atteintes des CBV, nous avons constaté que presque la moitié se commettent à l'aide d'armes blanches, et donc avec violence.
Mais vous parlez de 45% de la criminalité générée par les coups et blessures. Hein.
Non,
mais est-ce que cela sous-entend que quelque part nous devenons violents?
Pas forcément.
Les Algériens sont violents?
Non, mais ça c'est un chiffre, mais il faut le placer dans son contexte. Si vous prenez le volume global de la criminalité qui est aux alentours de 180 infractions par an, sur une population d'à peu près 38 millions, disons 40 millions, vous allez voir qu'il y a à peine 300 infractions sur 100 000 habitants. Donc, il faut voir c'est-à-dire le verre, comment il est à demi-plein. Donc, le nombre de citoyens qui sont corrects, il est
nettement supérieur.
Nettement beaucoup plus supérieur.
Mais ce qui alerte aujourd'hui un peu les pouvoirs publics, c'est l'implication des mineurs dans des actions de violence. Est-ce que vous avez étudié aussi ce paramètre? Puisqu'on parle aujourd'hui essentiellement de délinquance, est-ce qu'il y a des mesures qui sont entreprises aujourd'hui par la DGSN pour essayer de comprendre et de parer à ce phénomène?
Bon, pour ce qui est des mineurs, nous avons identifié, sur la base des infractions que nous avons traitées, des affaires que nous avons constatées, nous avons identifié certains facteurs à l'origine de la délinquance juvénile. Ben, je citerai entre autres, ce n'est pas tous les facteurs, par exemple, une faiblesse dans l'encadrement de l'autorité parentale. Pour certains cas, et qui est perçu par le comportement de mineurs qui errent dans les rues, qui sèchent l'école sans que leurs parents ne s'inquiètent, etc. Le deuxième facteur, c'est l'échec scolaire, qui peut lui-même découler de la crise familiale. Aujourd'hui, la violence telle qu'elle est surgie dans les établissements scolaires, d'une manière infinitésimale, certes, mais elle reflèterait un rejet de la scolarisation, surtout par les élèves en situation d'échec scolaire. Il y a aussi les situations familiales critiques, la monoparentalité, quand il y a le divorce, donc il y a aussi un manque de contrôle. Et l'oisiveté aussi. Les jeunes exclus des écoles d'une façon prématurée, donc quand même ils sont oisifs.
Mais justement, vous mettez en cause en premier l'autorité parentale. Faut-il faire comme dans certains pays qui ont éradiqué cette violence urbaine ou qui tentent de l'éradiquer, d'aller vers une implication pénale de la responsabilité des parents dans les crimes commis par leurs enfants à l'âge mineur?
Vous savez,
c'est appliqué dans beaucoup de pays.
Oui, bon, moi j'ai cité comme premier indicateur, mais ça ne veut pas dire qu'il est le seul et le principal indicateur. Nous avons relevé cette situation, c'est-à-dire l'absence du contrôle parental, mais ceci est dû à des situations particulières.
Mais est-ce qu'il faut aller vers une responsabilité pénale des parents?
Ça, c'est l'affaire du législateur.
Mais est-ce que vous la proposez, vous, qui êtes en contact direct, justement, avec ce type de violence aujourd'hui?
Nous soulevons les problèmes et les indicateurs et les facteurs à l'origine de la criminalité et à la partie concernée pour légiférer des lois de s'en servir à la manière qu'elle jugera utile.
Mais dans certains pays, ils ont quand même réduit cette violence urbaine grâce, bien sûr, à la responsabilité pénale des parents. Est-ce que vous y êtes quelque part, vous, favorable en tant que responsable à la DGSN?
Vous savez, il faut que... Merci. Il faut étudier la question de sur plusieurs facettes. Parce qu'en impliquant les parents aussi, il faut voir leur situation, il faut voir leur environnement, leur niveau de vie, leur niveau intellectuel, etc. Il y a beaucoup de paramètres. Certains parents ne comprendront jamais si vous leur dites pourquoi vous laissez votre enfant errer la nuit, pourquoi vous laissez...
Alors, commissaire Chaben Swalhi, beaucoup de questions. Pour cette deuxième violence urbaine n'est pas plus dangereuse que ce qui existe dans les autres pays du monde. Vous avez pour les 10 premiers mois 180 000 infractions. Bien sûr, il y a la moitié de la criminalité qui est violente et qui a généré bien sûr des pertes et des dégâts. Mais vous dites aussi que ce n'est pas une violence dans laquelle passe aujourd'hui dans nos quartiers. Dès qu'il y a une bagarre, des rixes entre citoyens, vous avez des sabres qui sortent de partout. Expliquer. Ça commence à nous effrayer.
Bah oui, effectivement. Bon, nous, on est conscient que le citoyen, ça lui cause quand même un sentiment d'insécurité, effectivement. Mais il y a un traitement, il y a des interpellations, il y a des présentations au parquet, il y a des arrestations et les gens sont mis en détention préventive et sont écroués. Alors le traitement de ces situations qui surviennent d'une manière instantanée est probablement imprévisible dans la plupart des cas, parce que je vous ai déjà dit que ça peut provenir d'un simple, d'un événement anodin. Et donc, nous intervenons d'abord pour calmer les esprits, séparer les antagonistes, protéger ce fait d'investigation en parallèle. Donc, les instigateurs, les auteurs, etc., seront interpellés ultérieurement. Une fois identifiés sur la base d'équipements techniques, etc., ils seront interpellés et avec la collaboration étroite des parquets, ils seront présentés et écroués.
Et des sabres aujourd'hui, commissaire Swalhi. Question oui, toute simple.
Mais oui,
on les voit, nous, on a peur.
Oui, on peut avoir un sabre chez soi. Bon, les gens fabriquent des sabres à partir de barres de ferraille ou je ne sais quoi. Mais,
c'est interdit. Mais c'est des armes.
Oui, mais il faut les détecter, il faut les trouver. Et c'est ce que je vous ai dit d'abord, que des actions proactives. Effectivement, interpeller les gens qui porteuses d'armes, les personnes porteuses d'armes prohibées. Et les chiffres sont là, donc on a des gens qui sont porteuses d'armes depuis 3 ou 4 ans, on fait ce travail et les personnes qui portent des armes prohibées sont systématiquement présentées devant la justice et ils subiront les punitions nécessaires.
Mais le phénomène nouveau aussi, hormis bien sûr les adolescents, c'est l'implication aussi des femmes dans des crimes odieux perpétrés ces derniers temps. Le crime qui s'est produit au niveau de Kerim Belkacem a choqué tout le monde.
Oui, mais
tout le monde est stupéfait. Arriver à égorger des enfants en bas âge par une femme, de surcroît, ça fait peur.
Je ne veux pas une situation particulière parce que ça se passe, ça peut arriver dans n'importe quel collectivement, on ne peut pas le nier. Mais l'essentiel, c'est que l'enquête, nous, en tant que service de sécurité, notre objectif, c'est vrai, c'est de prévenir, mais aussi de réprimer. Si on n'arrive pas à empêcher l'infraction à se commettre, on est là pour la réprimer, pour sanctionner les gens qui méritent la sanction.
Mais cette violence qui prend de l'ampleur, est-ce qu'elle serait éventuellement de ce que nous avons vécu par le passé, les années de terrorisme? Ceux qui subissent ou vivent la violence perpétuent ou reproduisent la violence. C'est ce que disent un peu aujourd'hui les analystes et les sociologues.
Pas forcément. Bon, pour certains cas, ça peut être le cas, effectivement, mais il y a d'autres facteurs.
Les images de la télévision qu'on voit aujourd'hui.
Oui, il y a les mass médias, il y a l'Internet, il y a aussi la drogue. Il faut noter que les services de sécurité ont saisi des quantités importantes de drogue durant ces dernières années. Et la consommation de drogue et surtout de psychotropes induit d'une manière directe ou indirecte à la violence.
Par rapport à la consommation de drogue, est-ce que vous avez des indicateurs également chiffrés ce matin avec vous, commissaire Swalhi, que vous pouvez nous communiquer?
Attendez une seconde, je vais chercher dans mes chiffres. Alors, nous avons 9856 infractions à la législation des stupéfiants. Et ce qui représente quand même 6% du volume global de la criminalité. Ça vient en troisième position après les atteintes aux personnes et les atteintes aux biens.
Les atteintes aux personnes, vous avez aussi...
Les atteintes aux personnes, nous avons 80 015 infractions, ce qui représente 45% de l'ensemble de la criminalité. Les atteintes aux biens, nous avons 70 671 infractions, ce qui représente 40%. Et puis, vient les infractions à la législation. Et au niveau des infractions à la législation des stupéfiants, la majorité des infractions sont la détention et la consommation. Puisque le trafic, il représente quand même un petit taux, puisque c'est des grandes affaires. Donc, la plupart des infractions à la législation des stupéfiants se trouve au niveau de la consommation et de la détention.
Alors, quelles solutions préconisez aujourd'hui? Comment vous déployez de violence ou non? Des plus et davantage la présence de la police au niveau des zones urbaines?
Absolument. Ça rentre dans le cadre de la prévention. Donc, il y a un déploiement...
La police de proximité.
Il y a un déploiement de la police de proximité. Notre haut commandement de la DGSN a instruit qu'il y ait au minimum... une sûreté urbaine, ce qui permettra un rapprochement du citoyen pour s'occuper de ses préoccupations, surtout dans le domaine sécuritaire, et d'observer un peu la population, de détecter les jeunes déviants pour un peu agir et anticiper sur leur comportement.
Mais est-ce que vous agissez en amont, c'est-à-dire la réalisation des commissariats de proximité pendant la réalisation et la conception de la cité ou après? Parce qu'on a vu pour Ali Medjili, il y avait un commissariat pour toute une population pratiquement qui est vraiment inférieure. Ils ont demandé de renforcer la présence policière au niveau de ces cités.
Non, effectivement, nous essayons d'être présents partout. Nous essayons d'assurer une couverture sécuritaire, notamment au niveau des grandes cités. Mais vous savez, pour répondre à cette préoccupation, le gouvernement algérien a lancé des projets dans le besoin. D'ailleurs, on a constaté qu'en 2012, il y a eu beaucoup de cités qui ont été réalisées. Et il fallait s'installer rapidement, il fallait installer des commissariats rapidement, et c'est ce qui se fait réellement.
Comment vous allez vous déployer?
Ben, on va se déployer par rapport à la population, à un certain nombre de populations.
Renforcer
en effectif, en formation, où il va y avoir des gens spécialisés dans la communication, dans la psychologie, etc.
Mais est-ce que, par exemple, vous allez aussi mettre en place des caméras de son aussi? C'est un outil favorable pour éradiquer ce type de phénomène.
Je préfère les appeler des caméras de sûreté ou des caméras de sécurité, parce qu'on ne surveille pas réellement. On est là pour... Si on les installe, il y en a à Alger, il y en a dans les grandes métropoles algériennes, c'est justement pour assurer la sécurité des citoyens.
Mais elles peuvent aussi alerter en temps réel.
Oui, effectivement. Mais l'objectif, c'est d'assurer la sécurité, c'est pas de surveiller. Donc je préfère les appeler caméras de sûreté ou de sécurité. Effectivement, nous avons des projets d'insécurité.
Mais est-ce qu'aujourd'hui aussi, par exemple, les citoyens s'impliquent pour dénoncer, par exemple, des types d'infractions? Parce que souvent, c'est
énormément,
sur la base...
Énormément. Le citoyen, il est plus coopératif.
Il est actif.
Le numéro vert, oui, le 1548. Et nous avons également un site sur Internet. Les gens peuvent... Pour certains qui sont accros à Internet, peuvent sur la base de son site Internet, et nous avons le numéro vert. Mais aussi, les gens alertent de vive voix, viennent eux-mêmes pour dénoncer. Et je profite de l'occasion pour remercier le citoyen pour sa grande collaboration avec sa police, et je l'exhorte aussi à faire plus d'efforts dans ce domaine.
Mais dans ce type de criminalité, est-ce qu'on peut trouver aussi, par exemple, des actions menées qui pourraient avoir des liens avec le terrorisme?
J'ai pas bien saisi votre question.
C'est-à-dire aujourd'hui, par rapport à cette criminalité, est-ce qu'il y a des actions qui sont urbaines, pourraient être liées à des actions de terrorisme, puisque nous avons vu qu'il y a l'implication des mineurs dans certains actes criminels? Est-ce qu'il y aurait peut-être l'éventualité de réseaux pour enrôler des jeunes, recruter des jeunes dans des actions terroristes?
Non.
Nous sommes loin aujourd'hui de ça.
Non. Ça, au milieu urbain, je n'y pense pas. Peut-être au niveau des villages.
Vous êtes vigilant, très vigilant.
On est très vigilant là-dessus. D'ailleurs, des situations similaires ont été enregistrées dans le temps, où des mineurs ont été impliqués dans le soutien au terrorisme. Mais ça ne s'est pas passé spécialement au niveau urbain. Ça s'est passé dans des localités, c'est-à-dire au niveau des villages avoisinant les maquis. Mais au niveau urbain, c'est très difficile qu'il y ait des enrôlements de jeunes pour le terrorisme.
Alors, dernière question, commissaire Chaben Swalhi. Moi, je voudrais revenir sur un aspect qui revient aussi par les sociologues, c'est la conception et la réalisation de nos cités aujourd'hui et de nos quartiers. Certains considèrent que ce sont nous réalisons quasiment des cités qui se transforment en ghettos et qui sont favorables, bien sûr, à l'émergence de ce type de criminalité. Est-ce que vous tenez compte aussi de ce paramètre?
Vous savez, l'absence de centres de loisirs, l'absence de maisons de jeunes, d'espaces verts, d'équipements de sport, etc. C'est vrai que ça cause une frustration, surtout pour les gens qui ont l'habitude de faire ces activités culturelles, si j'ose dire, et sportives, etc. Et donc, effectivement, si on essaie d'occuper nos jeunes à travers ces infrastructures et ces
d'accompagnement, de loisirs, de détente,
on aura peut-être moins ce sentiment de frustration et moins de violence, moins de criminalité.
Alors, vous, les services de sécurité, vous alertez les pouvoirs publics concernés par cet aspect-là,
oui,
sur ces questions?
Effectivement, notre rôle, spécialement nous, c'est effectivement de détecter les causes et les indicateurs et d'en alerter les pouvoirs publics sur les situations.
Alors, ce qu'on doit retenir, c'est que nous ne sommes pas dans des batailles de gangs en Algérie.
Non.
On est loin de ça.
Loin de ça, non, pas du tout.
Commissaire Chaben Swalhi, merci de répondre à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée.
C'est moi.
À bientôt.
À vous.
Au revoir.